France Culture.
Le mot secte n'a pas toujours eu la connotation extrêmement négative qu'il porte aujourd'hui. Une secte, c'est aussi simplement un groupe de personnes partageant une même croyance, une même doctrine, et parfois une foi dans un prophète ou une figure messianique. Cette émission de François Refoul, intitulée « Jésus devant l'histoire, une secte parmi les autres », revient avec Henri Cazel et François Smith Florentin sur cette question centrale. Les chrétiens furent-ils considérés comme une secte parmi les autres? Et au regard de l'histoire, est-ce simplement une secte qui a connu un succès absolument extraordinaire? Discutant de la valeur historique de l'Évangile, notamment dans son portrait de la secte des pharisiens, cette émission remet en perspective notre perception à géométrie variable des croyances, basée sur leur popularité et leur ancrage dans notre culture. Une émission diffusée pour la première fois le 2 avril 1969 sur France Culture.
Jésus devant l'histoire. Une émission du père François Refoulé. Aujourd'hui, une secte parmi les autres. Avec la participation de Françoise Florentin-Smith et Henri Cazel, professeur à l'Institut catholique de Paris. Texte lu par Michel Etcheverry, sociétaire de la Comédie française. Réalisation Georges Gravier.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez certes pas vous-même, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi. C'est ceci qu'il fallait pratiquer, sans négliger cela. Guides aveugles, qui arrêtez au filtre le moustique et engloutissez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, quand l'intérieur en est rempli par rapine et intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écuelle, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence, mais au dedans, ils sont pleins d'ossements de mort et de toute pourriture. Vous de même. Au dehors, vous offrez aux yeux des hommes l'apparence de juste, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité.
Le texte de l'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre frappe d'abord par le ton âpre et violent de Jésus, par la gravité des accusations qu'il lance aux pharisiens. Hypocrisie, orgueil, suffisance, avarice, injustice, impiété. Les pharisiens nous sont présentés comme les adversaires les plus irréductibles de Jésus. Sans doute ne sont-ils pas les seuls à s'opposer à lui. À côté des pharisiens, les évangiles mentionnent encore les sadducéens, les hérodiens, les scribes, mais les pharisiens sont désignés comme les plus farouches, les plus dangereux. L'image que nous donnent les évangiles des pharisiens est-elle historiquement exacte? Le conflit entre Jésus et les pharisaïsmes fut-il historiquement aussi aigu, aussi impitoyable que nous le suggère un saint Matthieu par exemple? Un certain nombre d'historiens modernes ont mis en question la présentation des évangiles. Sans doute y a-t-il eu de mauvais pharisiens comme il y a de mauvais chrétiens. Mais les vrais pharisiens, par exemple un Hillel, dont certaines sentences rappellent celles du sermon sur la montagne, ou encore un Gamaliel, dont le futur saint Paul fut le disciple, apparaissent comme de très grandes figures religieuses, hautement respectables et de surplus tolérantes. Aussi, dans un livre pour grand public paru il y a 4 ans, Madame Gruber-Magito s'est-elle proposée de réhabiliter les pharisiens. Selon elle, le conflit entre Jésus et le pharisaïsme fut moins grave que ne le laissent penser les évangiles. Était-il fatal, se demande-t-elle, que les différences entre la doctrine de Jésus et celle des pharisiens envenimassent leur rapport mutuel, au point d'aboutir au paroxysme de rancune qui éclate dans les évangiles. Nous ne le croyons pas, répond-elle. Pour elle, les vrais adversaires de Jésus furent non pas les pharisiens, mais les sadducéens. Ce sont ces derniers qui, pour une large part, sont responsables de la condamnation de Jésus, mais non les pharisiens. Cette opinion se trouve partagée par plusieurs historiens juifs. Ainsi, M. David Flusser, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, que nous avons pu entendre à Paris l'an dernier. Il va même jusqu'à prétendre que Jésus n'a rien dit et rien fait qui fût en opposition avec la vie religieuse des pharisiens. Il n'a même pas insulté les pharisiens d'une manière qui aurait pu susciter leur haine mortelle. La révolution que Jésus a prêchée, ajoute-t-il, ne pouvait pas en principe blesser les Juifs. Pour lui aussi, ce sont les grands prêtres qui ont voulu la mort de Jésus. Sommes-nous en droit de réviser le procès des pharisiens, de réhabiliter ceux-ci pour charger davantage les sadducéens? Telle est la question que nous poserons aujourd'hui à M. Cazel et à Mme Florentin Smith. Mais il nous faudra élargir la question et nous demander comment, historiquement, se situait le mouvement de Jésus parmi les diverses sectes qui divisaient le peuple juif au 1er siècle. La communauté de Jésus apparaissait-elle alors comme une nouvelle secte parmi les autres, ne mettant pas radicalement en question le judaïsme, ou au contraire, son existence signifiait-elle l'éclatement du judaïsme? Monsieur Cazel, pourriez-vous nous présenter un peu les pharisiens et nous dire s'ils furent ces adversaires de Jésus que nous présente l'évangile de Matthieu?
Les pharisiens représentent un groupe religieux du judaïsme certainement antérieur au groupe chrétien. L'histoire nous le montre déjà actif, agissant dès le 2e siècle avant notre ère, et nous pouvons alors suivre tout le développement de cette activité pharisienne au sein du judaïsme, qui va même être le judaïsme proprement dit après la ruine du Temple et la chute de Jérusalem en 70 de notre ère. Quant au rapport plus précis entre le groupe pharisien et le groupe chrétien, c'est le problème qui va nous occuper et je crois qu'il mérite en effet toute notre attention. Pour nous, chrétiens, il ne s'agira pas de réhabiliter les pharisiens aux dépens du Christ et des chrétiens. Mais si nous regardons de près même les sources du Nouveau Testament, nous ne pouvons qu'être surpris de voir que, au moment où certaines persécutions s'élèvent contre l'Église de Jérusalem, ce sont des pharisiens qui prennent la défense de cette jeune communauté chrétienne. Et si nous lisons l'Évangile, qui trouvons-nous comme défenseurs du Christ? C'est Nicodème et Joseph d'Arimathie, dont l'un, au moins, nous est donné comme pharisien. On peut donc se poser la question si la tension visible, éclatante, qu'il y a entre le pharisaïsme et le christianisme n'est pas à regarder un peu comme le conflit qui peut y avoir entre deux groupes voisins et frères et qui se disputent bien et parfois proches l'un de l'autre. C'est la question qui se pose.
Je voudrais poser une nouvelle question. Est-ce que Jésus n'a pas mis radicalement en question la loi dont les pharisiens se faisaient les défenseurs, les protecteurs presque?
Nous venons de lire ensemble ce chapitre 23 de l'évangile de Matthieu Or, qui lisons-nous ? Nous voyons que le Christ dit, en parlant des pharisiens et des scribes, « Faites comme ils disent et non pas comme ils font ». Autrement dit, même sur ce point, la critique porte non pas tellement sur la doctrine que sur la possibilité donnée à l'homme de pratiquer cette loi qui est lourde pour tous les hommes et dont certains pharisiens ont senti profondément le poids. Le conflit fut certainement très violent dès la Galilée. C'est là que, dans cette terre fraîchement conquise par le judaïsme, les deux sectes chrétiennes et pharisiennes s'opposent avec le plus de force, l'une et l'autre prétendant que le salut du peuple vient de sa doctrine, non pas de l'autre. Mais le problème n'est pas tellement un problème de respect de la loi. Nous voyons très bien dans le sermon sur la montagne comment le Christ lui-même affirme que pas un trait de la loi ne passera, pas plus que les paroles du Christ elles-mêmes, avant que tout soit accompli. Le respect de la loi me paraît fondamental dans la doctrine chrétienne. Reste à savoir comment on peut la pratiquer, comment on peut avoir cette fidélité à laquelle prétendaient les pharisiens et qui n'était pas si facile de réaliser.
Mais Jésus ne s'est-il pas dit, maître du sabbat, n'a-t-il pas mis en question les règles de la pureté rituelle ?
Le point mérite d'être étudié, car les pharisiens ont leur interprétation de la loi. Et ce que le Christ va contester, c'est la manière d'interpréter la loi en y ajoutant de nouvelles obligations qui pèsent comme un fardeau sur l'homme. Et il entend y substituer non pas une autre loi, mais une grâce, une aide qu'il entend apporter de la part du Père qui est dans les cieux. Nous voyons donc comment il ne substitue rien à la loi, mais comment il vient apporter aux hommes ce dont ils ont besoin.
Comment alors se fait-il que les évangiles nous présentent les pharisiens sous les dehors aussi ?
Le conflit s'est certainement durci. Et nous voyons très bien par ce dernier discours de l'évangile de saint Matthieu au chapitre 23 comment le conflit prend toute son acuité. Car en effet, c'est l'intime de l'homme qui est en cause. Dans un cas, on estime que la manière dont le Christ présente la loi met en cause cette loi et donc la spécificité du judaïsme. De l'autre, le Christ entendait communiquer une révélation au-delà du judaïsme et sans lui, nous autres chrétiens n'aurions rien connu des promesses faites à Abraham. Si nous voulons comprendre ce que vous appeliez l'âpreté des paroles de Christ, je crois que ça vient de sa volonté de communiquer à tous les hommes ce qui avait été promis par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non seulement à un peuple, mais à toute l'humanité. C'est à cause d'une certaine dimension d'âme, d'un certain amour, pour les uns, fidélité à leur peuple et à leur loi, pour les autres et leur maître, communication des dons de Dieu à toute l'humanité. Je crois que cela peut expliquer la dureté et l'âpreté du conflit.
Seriez-vous d'accord, madame, avec cette présentation du pharisaïsme telle que M. Cazel vient de nous la donner ?
Bien sûr. Elle est inévitable, en un sens. Le seul point sur lequel j'ai peut-être une hésitation, ce serait un point de méthode. Est-ce que nous pouvons parler du conflit entre les pharisiens et Jésus, ou les disciples immédiats de Jésus, autrement qu'à travers cette distance que nous donne la rédaction elle-même du Nouveau Testament. Vous avez cité Matthieu 23, nous pensons à l'ensemble de ces derniers chapitres, par exemple dans l'évangile de Matthieu, puisque c'est lui qui a été cité. Dans tous les cas, nous avons affaire au témoignage des disciples de Jésus qui, un bon moment après que les événements se soient produits, dans de nouvelles circonstances, qui sont celles de la polémique de la jeune église contre la synagogue, par exemple, réfléchissent. Est-ce qu'on pourrait peut-être arriver à préciser la marge d'hypothèse qu'il nous faut tout le temps conserver lorsque nous parlons du conflit entre Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus de l'histoire, et puis les pharisiens, alors que ce que nous citons, c'est le témoignage d'une église qui rédige et prêche une ou deux générations après que les choses se soient produites.
Les sources juives nous renseignent, d'une part par un silence éloquent à l'égard du Christ, d'autre part par certaines dispositions, je pense à telle prière dirigée contre les apostats dits minimes, où il est difficile de ne pas voir, sinon des chrétiens, du moins que les chrétiens en faisaient partie. D'autre part, nous avons eu quelques textes comme les Toledot Yeshua qui nous montrent le sentiment d'une partie du judaïsme à l'égard du christianisme. Cela n'entraîne pas que tout le pharisaïsme soit radicalement hostile au Christ. Et je crois que l'historien Joseph nous donne une position plus équitable vis-à-vis du christianisme de milieux juifs autorisés et de milieux pharisiens autorisés.
D'après vous, les sadducéens auraient été plus hostiles à Jésus que les pharisiens.
Je crois en effet que les sadducéens sont les grands responsables de la mort du Christ et du procès. Visiblement, dans les évangiles synoptiques, les pharisiens, qui sont les grands adversaires dans les controverses galiléennes, disparaissent au moment du procès. Et ce sont les sadducéens responsables du temple qui ont pris peur au moment de la manifestation des rameaux, où ils ont vu une prétention de Jésus de Nazareth sur le temple, ce qui déclenche leur opposition radicale. De plus, je crois que ce sont eux qui sont les grands responsables de la coupure lorsqu'ils ont mis à mort l'évêque de Jérusalem, Jacques, frère du Christ, en 62 de notre ère, et ceci, nous dit l'historien Joseph, malgré l'avis des gens pieux, c'est-à-dire les pharisiens. Mais sur ce point, je crois que Madame Florentin Smith nous en dira davantage.
Pas sur ce point-là, non, je ne pense pas. Sur les sadducéens, simplement, nous pourrions nous arrêter quelques minutes pour préciser notre vocabulaire. On est moins au courant de ce que c'est qu'un sadducéen, normalement, que de ce que c'est, en gros, même si c'est avec beaucoup d'erreurs, qu'un pharisien, ne serait-ce peut-être que parce que la critique, le pouvoir pharisien, rabbinique, après le début de notre ère, a masqué, a détruit en partie nos sources concernant les sadducéens. Disons donc très rapidement, je ne sais pas si M. Cazel sera d'accord, qu'ils étaient des conservateurs par rapport aux pharisiens, des aristocrates, disons-nous, des gens au pouvoir, mais au plan qui nous importe le plus et qui est celui de la discussion théologique concernant Dieu, le salut, etc., avec les disciples de Jésus ou avec Jésus lui-même, c'est sans doute leur attitude à l'égard de l'Écriture qui a dû être déterminante. Ils apparaissent au fond comme des conservateurs sur toute la ligne, et y compris en ce qui concerne la Bible. Ils paraissent s'opposer, par exemple, à cette espèce de sacrilège que commettent les pharisiens lorsqu'ils veulent étendre à l'ensemble du peuple, quel qu'il soit, les règles de pureté qui devraient normalement ne concerner que cette élite sacerdotale qu'ils ont sans doute représentée en grande partie. En ce qui concerne plus précisément leur rapport avec Jésus, nous sommes bien renseignés, dans la mesure où le témoignage est digne de foi, et d'autant plus si M. Cazel a raison lorsqu'il nous dit que les sadducéens ont joué un rôle plus grand sans doute que les pharisiens eux-mêmes en ce qui concerne le procès, car dans l'ensemble des polémiques, des discussions entre Jésus et les sectes, ou les groupes, disons peut-être, de juifs qu'il rencontre sur son chemin vers la fin de son ministère, la place que tiennent les sadducéens est relativement petite, étroite, mais bien précise. Au chapitre 12 de Marc, par exemple, les sadducéens sont très lapidairement définis. Ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Ça ne faisait pas partie du canon biblique, donc, en bon conservateur, il nie ce développement trop tardif de la tradition. Du même coup, d'ailleurs, les anges, les esprits, etc., sont aussi niés. ce n'est pourtant pas sur le point de la résurrection proprement dite, techniquement, qu'il semble y avoir dispute. Les Sadducéens, eux, posent la question de la résurrection, d'une manière qui veut être un piège, d'ailleurs, qui n'est pas de bonne foi dans le récit évangélique. Et la réponse dépasse de beaucoup la question. N'êtes-vous pas dans l'erreur, vous autres Sadducéens, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni donc la puissance de Dieu? C'est donc sur le plan de leur attitude à l'égard de l'Écriture qu'il y a dû y avoir très grosse opposition entre l'atmosphère sadducéenne, l'attitude sadducéenne et l'attitude chrétienne ou des disciples immédiats de Jésus. Le problème de la résurrection n'est qu'un point sur lequel on voit bien, selon les évangélistes, que les Sadducéens se trompaient quant à l'Écriture comme témoin de la puissance de Dieu. L'Écriture dans laquelle ils auraient dû apprendre à connaître un Dieu tellement puissant que le thème de la résurrection eût dû apparaître allant de soi, en quelque sorte. Donc, ça doit être sur la lecture de l'Écriture, sur le problème de la lecture de l'Écriture, qu'il y a dû y avoir réelle polémique entre l'attitude sadducéenne et l'attitude chrétienne, au temps de Jésus et peut-être plus précisément au temps des tout premiers disciples et peut-être de l'organisation de l'Église primitive quelques années après la mort de Jésus. Mais je ne sais si M. Cazel serait d'accord avec cette manière de réduire vraiment beaucoup le problème de l'opposition entre théologique, du moins, entre les milieux sadducéens et les milieux chrétiens.
Je trouve, madame, que vous avez fort bien posé le conflit doctrinal. Je me permettrai de souligner un autre aspect qui peut-être tout fera mieux voir la position sadducéenne et ce qui la commandait. Ils se sentaient les responsables du temple, de ce lieu où de partout venaient converger les foules juives. C'était là qu'était vraiment l'âme du judaïsme. Et en tout cas, c'était là qu'on se retrouvait la vie sociale de tout le peuple juif. Et vis-à-vis des autorités romaines, c'était leur responsabilité. Leur tort, à mon avis, fut de ne pas regarder de près ce que disait Jésus de Nazareth et d'avoir conclu peut-être un peu vite qu'il fallait mieux qu'un homme périsse pour le salut du peuple. Mais je crois que ce problème de salut du peuple, ce que d'autres appelleraient la raison d'État, qui prend toute dimension quand c'est un État religieux et à base religieuse comme la Jérusalem du 1er siècle, je crois que c'est cela qui nous fait saisir le drame et qui finalement s'est conclu dans le sang et sur la croix.
Sur ce point des motivations politiques qu'il peut y avoir à l'opposition sadducéenne à l'égard de Jésus et de ses disciples, il y a peut-être déjà tout un passé qu'il faudrait envisager alors, celui par exemple des faux messies, tous ceux au sujet de qui le Nouveau Testament est peut-être silencieux, mais qui apparaissent bien là.
Vous avez tout à fait raison de poser la question, car le judaïsme du 1er siècle avant notre ère, du 1er siècle après notre ère, est plein d'une espérance déçue et qui fait se soulever et se présenter une série de messies se présentant comme les délivreurs, les libérateurs d'Israël vis-à-vis de la puissance romaine. Parmi ces candidats messies, vous savez comme moi que deux sont cités dans les Actes des Apôtres et dont l'un, Théudas, avait terminé piteusement sa révolte. Ceci nous fait comprendre les inquiétudes des responsables du temple devant de pareilles prétentions messianiques. Il n'en est pas moins vrai que d'autres possibilités se présentaient. Vous connaissez comme moi ces fameux textes de Qumran et le fameux maître de justice qui s'y présente comme un chef de communauté, lui aussi chargé d'une mission près de son peuple.
Précisément, on a souvent rapproché Jésus et le maître de justice, et certains savants, comme Allegro, ont même prétendu que Jésus n'était que le maître de justice Redivivus. Qu'en pensez-vous?
Ceci me paraît une simplification, parce que, à côté du maître de justice, nous en avons d'autres. Il suffit de mieux se représenter la complexité du problème, la complexité des mouvements qui agitaient le judaïsme d'alors, et précisément la richesse religieuse et l'intensité des mouvements dans ce judaïsme. Le maître de justice me paraît une figure attachante, et je suis, pour moi, mon compte, persuadé qu'il y a un rapport entre la doctrine du maître de justice et les espérances dont nous retrouvons des échos dans le christianisme, en particulier ce désir de perfection tel que nous le trouvons dans le sermon sur la montagne. Nous en avons déjà un écho dans les textes de cette secte dont le maître de justice semble avoir été le fondateur. Que le maître de justice soit mort, et soit mort dans des circonstances douloureuses, violentes, bien que cela ait été parfois discuté, cela me paraît également acquis. Qu'est-ce que représente maintenant l'espérance d'un retour du maître de justice pour la secte que on tente à rapprocher, et il y a beaucoup de raisons pour cela, de ce que nous connaissions être les Esséniens d'après les textes anciens? C'est cela qu'il faut regarder de près. Je ne vois pas que le maître de justice se soit jamais présenté comme ressuscité, comme présent au milieu de sa communauté. Or, précisément, c'est cela qui fait la spécificité de la secte chrétienne. On a dit que la secte chrétienne, que le christianisme était un essénisme qui avait réussi. C'est possible. Pourquoi a-t-il réussi? Pourquoi est-il encore vivant alors que l'essénisme a disparu? C'est là le problème qui me paraît essentiel et faire le fond de la différence entre les deux doctrines.
Jésus devant l'histoire. C'était une émission du père François Ruffoulet. Aujourd'hui, une secte parmi les autres, avec la participation de Françoise Florentin-Smith et Henri Cazel, professeur à l'Institut catholique de Paris. Texte lu par Michel Etcheverry, sociétaire de la Comédie-Française. Assistante Marie-Hélène Lacoste. Collaboration technique Guy Testa. Prise de son François Soler. Réalisation Georges Gravier.
C'était « Jésus devant l'histoire, une secte parmi les autres », une émission réalisée par Georges Gravier et diffusée pour la première fois le 2 avril 1969 sur France Culture.